en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La grande question que se posent les embryologistes est de savoir quel est le plan qui décide du sort de nos cellules pour que nous soyons hommes, crapauds, souris ou mouches. Méfiez-vous des faux amis, vous dira Alain Prochiance, membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France. La mouche est un ancêtre tout aussi valable que le chimpanzé pour l'Homo sapiens que vous êtes. Canal Académie, en partenariat avec l'École nationale des ponts et chaussées, vous propose d'écouter la leçon inaugurale d'Alain Prochiance, donnée fin août 2009 aux premières années de l'École des ponts Paris Tech. Sa conférence s'intitule « La machine esprit ». On l'écoute.
La manip la plus étonnante dans la vie, c'est que si vous prenez un œuf de poule, il sort une poule. Et pas autre chose, enfin, jusqu'à ce que les généticiens s'en mêlent. Mais ça a l'air tout bête comme ça, c'est une manip qui rate jamais, enfin quasiment. Hein. Mais un œuf, c'est une cellule, une poule, c'est milliardaire en cellule. D'accord ? Et donc, à partir d'une cellule, vous allez faire un organisme que vous pouvez prévoir en sachant d'où il sort. Vous pouvez prévoir l'organisme. Mais en même temps, c'est un processus absolument infini de multiplication cellulaire, de mort cellulaire, de migration cellulaire, de différenciation cellulaire. Et au bout du compte, vous avez la poule. Et ça, c'est parce que se passent les poules, nous aussi, hein, comme les poules, comme tous les êtres vivants, ce qu'on se passe de génération en génération, c'est un programme de développement. Un programme de développement qui, d'une certaine façon, ne rate jamais, parce que d'un œuf d'humain sort aussi un humain, etc. Et donc, la grande question que se posent les embryologistes et les gens qui s'intéressent à la reproduction, mais aussi au développement, et aussi, vous verrez, le système nerveux est un peu, c'est encore un peu plus compliqué, c'est quoi le plan, hein? Comment est-ce que ce truc qui passe permet de donner des instructions, qui permet de construire une machine, qui n'est pas une machine d'ailleurs, vous allez le voir, aussi prédictible, et en même temps imprédictible, vous le verrez aussi, qu'un être vivant. Et les premières réalisations de comment ça pourrait se faire, ça vient de ces mutations que vous voyez ici, qui sont absolument monstrueuses, puisque ça, vous n'avez jamais vu une mouche de très près, j'imagine, de votre vie, mais ça, c'est une mouche, c'est une tête de mouche normale. Avec ça, c'est la bouche, hein, c'est l'embryon, et ça, ce sont les antennes, c'est l'équivalent du système olfactif chez la mouche, le nez. Et ça, c'est une mouche mutante dans laquelle, à la place des antennes, est poussée une patte, d'accord ? C'est le mutant qu'on appelle Antennapedia, qui a une patte à la place des antennes. Et quand on a eu ces mutants, parce que en fait, les cellules embryonnaires qui sont là et qui doivent normalement donner naissance à une antenne, s'imaginent qu'elles sont là, c'est-à-dire sur le deuxième segment thoracique de la mouche, et s'imaginant qu'elles sont là, ben, elles font l'organe approprié, c'est-à-dire la patte, sauf qu'elles sont là. Et du coup, ça donnait le lien entre une mutation génétique et la capacité de prévoir la forme d'un organe. Donc, comme ça, c'était un mutant, ça a permis d'aller assez rapidement. Bon, ces mutants ont été isolés au 1900, et le clonage des gènes responsables de ça a été fait en 1980. Mais bon, assez rapidement, c'est assez lent finalement. Si vous pensez que les premiers avions qui se cassaient la gueule au bout de, à un mètre du sol, c'est 1903-1904, et qu'on est monté sur la Lune en 1960, ma Z, quel bon quand même, en 60 ans. 80 années pour passer de l'observation du mutant à la séquence du gène, c'est quand même long. Mais enfin, ça s'accélère. La biologie est entrée dans une phase d'accélération. Enfin, on a l'impression. Donc, toujours est-il que ces gènes ont été une très grande découverte. Ça s'appelle des gènes de développement. Et c'est une très grande découverte parce qu'ils sont non seulement importants pour comprendre la biologie du développement, mais aussi extrêmement importants pour comprendre l'évolution. Parce qu'en fait, l'évolution, c'est aussi un changement de forme. C'est un changement du plan, hein, au sens architectural, hein, de blueprint. Et vous voyez, c'est ici une mouche normale. Hein, vous avez tous vu des libellules. Les libellules, ça a 4 ailes. Une mouche normale, ça a 2 ailes. Mais on peut faire des mutants dans un gène de cette famille qui va tout d'un coup avoir 2 ailes à la place du balancier. C'est un petit organe ici qui permet de voler droit et transformer en ailes. Et donc, ce que vous pouvez constater, c'est que la découverte de ces gènes est une découverte extraordinairement importante parce qu'elle permet de faire le lien entre la génétique, le développement et l'évolution, ce que les biologistes appellent aujourd'hui évo-dévo. Et si vous allez un tout petit peu plus loin dans la réflexion, vous constaterez que se reproduire, se développer et évoluer sont les trois caractéristiques du vivant. C'est-à-dire que c'est ce qui distingue le vivant de l'inerte. Et à travers la découverte de ces gènes de développement, ce qui s'est construit dans les 20 dernières années, C'est une véritable théorie du vivant. C'est-à-dire qu'on peut dire, d'une certaine façon, qu'à travers la découverte de ces gènes, les sciences du vivant sont entrées dans une phase où elles ont enfin une théorie, ce qui, d'une certaine façon, leur manquait avant qu'on soit capable de faire la fusion entre ces trois domaines, la génétique, du développement et l'évolution. Et c'est pour ça que nous avons la chance de vivre une période qui est extraordinairement importante et intéressante dans le domaine qui est finalement le nôtre. Alors, ces gènes de développement, il n'y a pas que les ailes, il n'y a pas que les yeux, hein, il y a pas... Donc ces gènes de développement chez la mouche sont disposés le long d'un chromosome, voilà, comme ça ici. Et c'est quelque chose de tout à fait étonnant que les gènes qui sont... Alors les chromosomes, ils ont un avant et un arrière. Ils ont un avant et un arrière. L'avant, c'est ce qu'on appelle le côté 3' et l'arrière, ce qu'on appelle le côté 5'. Mais ce n'est pas vraiment la chose qui est importante. Ce qui est intéressant, c'est que les gènes qui sont responsables du développement morphologique des différents organes le long de l'axe antéro-postérieur de l'organisme sont disposés le long de l'axe antéro-postérieur du gène. C'est comme si vous aviez une petite mouche, si vous voulez, dessiné à la surface de votre chromosome. J'appellerais ça un drosophile oculus, en référence aux homonculus. L'autre chose qui est tout à fait étonnante, c'est que, c'est pas uniquement chez les mouches que ça se passe, c'est aussi vrai chez les vertébrés, chez nous, chez les oiseaux, les mammifères, etc. Et que, du fait de... Mais chez nous, on n'a pas un seul complexe, on en a quatre. On en a quatre. Vous voyez ici, ils sont sur quatre chromosomes différents, on les appelle ABCD. Mais ça, c'est lié, au cours de l'évolution, à deux duplications successives des chromosomes. Un donne deux et deux donne quatre. Ce qui fait qu'en fait, il y a une correspondance, que vous voyez ici selon un code couleur, entre les gènes qu'on trouve chez la mouche et les gènes qu'on trouve chez nous. Au point que si je retire le gène de la mouche et que je le remplace par ce qu'on appelle son orthologue, c'est-à-dire l'homologue à travers l'évolution, un rouge de souris remplaçant un rouge de mouche, je vais avoir une mouche quasiment normale. Et si je prends un rouge de sapiens, c'est-à-dire nous, et que je le mets chez une mouche, j'aurai une mouche quasiment normale. Je montrerai ça tout à l'heure pour la tête. Donc, la manip dans le sens inverse n'a pas été faite. Le comité d'éthique s'y est opposé. Pourtant, c'est jamais que du ATGC, hein, je veux dire, c'est pas grave, mais bon. C'est la première preuve, si vous voulez, d'une certaine façon vraiment hard, que nous avons un ancêtre commun avec les mouches. Et cet ancêtre commun a vécu il y a environ 600 millions d'années. Voilà. Alors, ces gènes n'expriment pas, n'existent pas uniquement... alors, je vais parler doucement, hein, sur le ton de la conversation. Je n'irai pas jusqu'au bout de mon exposé, mais quand on est fatigué, on s'arrête. Hein. L'essentiel, c'est que vous compreniez un tout petit peu la logique du travail que nous faisons. Donc, ces gènes ne sont pas uniquement exprimés dans le corps, ils sont exprimés dans le cerveau, qui d'ailleurs fait partie du corps. Mais c'est une classe de gènes de développement aussi importante. Vous voyez ici, par exemple, j'en ai mis, il y en a environ 800. Hein. C'est pas énorme. Et là, j'en ai mis trois, et vous voyez que, de nouveau, vous avez... c'est un futur cerveau. Au départ, chez les vertébrés, le cerveau, c'est une couche d'une cellule, ce qu'on appelle le neuroépithélium, juste une couche de cellule très, très fine, hein, qui fait ce qu'on appelle le tube nerveux. Et le long de ce tube nerveux, les domaines sont déterminés par les combinatoires d'expression de ces gènes de développement. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai rouge, bleu, jaune... Hein, là j'ai rouge, bleu, là j'ai rouge, multipliez ça par 400 et vous verrez que vous avez une très grande combinatoire, et cette combinatoire est importante parce qu'elle marque aussi les bords, voyez, c'est-à-dire que par exemple ce territoire-là peut avoir un devenir différent de ce territoire-là parce que là il y a un bord et en fait vous n'avez pas le même destin de cette région du système nerveux. Donc ces gènes sont présents chez nous bien sûr. Mais ils sont présents depuis très très longtemps. Là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ce n'est pas très grave. C'est un arbre généalogique de l'expression du gène OTX2, celui qui est en rouge ici. Le gène OTX2, en fait, c'est le gène de l'avant. Hein. Vous savez, dès qu'il y a eu deux cellules, au début, il y avait que des unicellulaires. Et puis, les unicellulaires ont inventé la multicellularité. Et dès qu'il y a eu plusieurs cellules, il fallait savoir qui était devant, qui était derrière, qui était dessus, qui était dessous. Hein. Donc, c'est important pour construire un organisme. Et de ce fait, vous êtes obligé d'avoir quelque chose qu'on appelle une information de position. C'est-à-dire chaque cellule doit avoir une information qui lui donne sa position dans l'espace tridimensionnel du corps. Alors, ce gène rouge ici, qu'on appelle OTX2, qui est l'équivalent à l'orthologue de OTD chez la mouche, est le gène de l'avant. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que ce gène de l'avant, hein, vous le trouvez depuis les premiers pluricellulaires. Là, c'est une hydre. Les hydres, c'est extraordinairement vieillot, hein. Il n'y a que deux feuillets, enfin, c'est un organisme très ancien. Donc, vous voyez que, en fait, tous ces organismes Ça, c'est l'OTX de l'hydre. Ça, c'est l'OTX d'un ver qu'on appelle élégance. Donc, en fait, jusque chez nous, là-haut, je ne suis pas sûr que je sois dans le truc. Et puis là on va vers les arthropodes de ce côté-là. Donc là, c'est il y a 600 millions d'années quand on s'est séparés. Donc jusque chez nous, c'est le même gène, entre guillemets, qui permet de construire la tête. Votre tête et la tête de l'hydre, d'une certaine façon, c'est le même gène qui permet de le construire. Ah, c'est une expérience d'humiliation, la biologie, absolument radicale. Donc, vous voyez, par exemple, ici, une acidie, qui n'est quand même pas un truc formidable, Amphioxus, et puis, voilà. Donc, c'est ce même gène. Et vous allez voir que ça peut pousser assez loin, hein, voilà. Voilà. Ici, voilà, en rouge, le vôtre, le mien aussi. Hein. Et ça, c'est celui de la mouche, l'orthologue, le même, d'accord. Donc, si je retire OTX2 chez une souris, la souris perd la tête. Vous avez ici un exemple, d'ailleurs, de souris sans tête. D'accord ? Si je retire le gène chez la mouche perd la tête. Alors, non seulement j'ai une homologie de structure, mais j'ai aussi une homologie de fonction, parce que c'est la fonction tête, enfin la fonction avant. Hein. Alors, maintenant, si je prends le gène de la mouche et que je le mets chez la souris récupère la tête. C'est pas mal, quand même. Alors, je vous ai un peu menti. Il ne faut jamais croire un savant sur parole, d'accord ? Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez juste... Vous savez, dans les gènes, il y a les séquences qui sont les séquences qui codent pour la protéine, puis vous avez des séquences ailleurs que dans la séquence qui code pour la protéine, qui sont les séquences qui régulent l'expression de la protéine, qui disent cette protéine doit être exprimée, ce gène doit être exprimé à tel moment, à tel endroit, pendant telle durée de temps. C'est ça qui est très important. Donc, ces séquences, elles sont en dehors du gène. Donc, si vous prenez le gène de la mouche OTD et que vous le mettez chez la souris, c'est pas terrible. Hein. Mais si vous le mettez avec les séquences flanquantes, c'est-à-dire les séquences qui permettent la régulation de l'expression, alors vous récupérez la tête. C'est un concept extraordinairement important parce que ça vous dit que ce qui est important, c'est pas la nature du gène, c'est effectivement là, quand et pendant combien de temps il est exprimé. Et c'est pour ça que ce n'est pas si grave si vous n'avez pas plus de gènes qu'une mouche, et les mêmes en gros, hein, ce qui est le cas. Il y a, je ne sais pas, 25 000 gènes chez nous, il y a 25 000 gènes chez la mouche, et ils sont pour beaucoup les mêmes, entre guillemets, comme je vous le prouve ici. Mais ce qui a énormément changé, c'est les systèmes de régulation de l'expression du génome. Et c'est pour ça que quand un certain nombre de crétins vous disent « nous sommes à 98,72% singes parce que nous avons tant de mutations qui nous séparent du singe sur le plan du génome », c'est totalement imbécile. Hein. Vous savez, c'est comme la bombe de Boris Vian. Le problème, c'est là où qu'elle tombe. Hein. Donc, quand la mutation tombe dans un aimant régulateur, ça peut avoir des effets sans aucune mesure avec l'événement physique qui est l'événement de la mutation. D'accord. Donc, quand vous lirez dans les journaux... qu'on retourne sur sa serviette Hermès quand on va à la plage l'été, eh bien, que vous êtes 98,23% singe, ou 98,78% singe, n'en croyez rien. Hein. Ce que ça veut dire, effectivement, si on peut regarder les mutations, c'est que nous sommes plus près du singe que de la souris, mais nous ne sommes pas à 80% souris, parce que selon ce calcul, nous serions 80% souris. Donc, ce qu'elle veut dire, si nous avons une proximité plus proche des singes que des souris, c'est évident, on le savait avant. Hein. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des singes, mais nous ne sommes pas des chimpanzés. D'ailleurs, c'est nous qui écrivons sur les chimpanzés, ce n'est pas les chimpanzés qui écrivent sur nous. Donc, je reviens à mon plan de bestiole. Voilà. Et c'est très important. C'est très important de savoir où je mets les bords dans un système nerveux. Où est-ce que je place ? Parce que là où je mets les bornes dans le système nerveux, c'est ce qui va définir, si vous voulez, là où j'ai mes régions qui sont importantes pour la parole, pour la cognition, pour l'audition, pour l'olfaction, toutes les modalités à la fois sensorielles, motrices et intellectuelles que j'ai dans mon cerveau, puisque ce sont des régions spécifiques de mon cerveau qui sont responsables de la mise en œuvre, de l'exécution de ces fonctions. Et comme vous pouvez voir ici, ce qui s'est passé au cours de l'évolution... Un, le cerveau a augmenté de taille, d'accord. Alors, le cortex, ce n'est pas une boule. Hein. Il faut savoir que le cortex, c'est un plan, c'est un tube, donc c'est un plan. Donc votre cortex fait 2 mètres carrés de surface et 3 mm d'épaisseur. Le mien aussi. D'accord ? Vous pourriez vous coucher dans votre cortex, plus ou moins. Hein, c'est un peu un grand drap, quoi. D'un lit à une place. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez donc augmenté la taille de la maison, hein, mais pas uniquement. Vous voyez bien que vous avez déplacé les bords. C'est-à-dire que, par exemple, les aires de la vision sont proportionnellement moins importantes chez Sapiens que chez un singe. Hein. Par contre, les aires de l'olfaction sont proportionnellement plus importantes chez un singe que chez Sapiens. Les aires du langage sont évidemment beaucoup plus importantes chez Sapiens que dans les autres espèces de singes. Donc, ce n'est pas uniquement que vous avez augmenté la taille, vous avez aussi déplacé les frontières. Hein. Le blueprint, hein, puisque après tout, certains d'entre vous seront peut-être architectes un jour, le blueprint de la baraque a été changé. J'ai diminué la taille de la cuisine et j'ai augmenté la taille du salon, hein, tout en augmentant aussi la surface totale de l'appartement. Donc, le développement et l'évolution jouent essentiellement sur ces questions pour le cerveau, c'est-à-dire la taille, où est-ce que je place mes bords, hein, et quelles fonctions je donne aux différents compartiments. Et ça, c'est un problème de génétique du développement. C'est aussi évidemment un problème de génétique de l'évolution. Et certains animaux, si je me réfère uniquement aux aires sensorielles, certains animaux sont entièrement, quasiment au niveau sensoriel, entièrement un nez, par exemple, hein, ou entièrement une langue. C'est-à-dire que, également au niveau sensoriel, si vous voulez, alors, vous voyez par exemple chez une souris, ce que vous prenez pour des poils sur le museau, ce n'est pas des poils, c'est des terminaisons nerveuses. Eh bien, chez une souris, ces terminaisons nerveuses du nez occupent pratiquement l'ensemble des aires sensorielles du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a quasiment pas de main, elle n'a rien du tout, quoi. C'est-à-dire que la représentation au niveau cortical n'a rien à voir, légèrement à voir avec le corps, mais c'est très différent. Hein. Je vous en montrer un exemple plus frappant. Voilà, ça c'est vous. Hein. C'est nous. C'est-à-dire qu'au niveau du cortex, la main est très très fortement représentée, hein. Les lèvres aussi, mais bon, le reste est un peu décevant. Hein. Voilà. Donc, vous voyez que c'est important de savoir où on met les bords. Hein. Là où on met les bords, c'est justement aux frontières des zones d'expression de ces différents gènes de développement. Et ça, c'est très amusant. C'est très amusant parce que d'abord, c'est des choses auxquelles je m'amuse moi-même dans mon labo. Mais en fait, maintenant, ça veut dire que si vous modifiez le niveau d'expression d'un de ces gènes, de part et d'autre d'un bord, vous allez pouvoir faire bouger les bords. Donc, vous pouvez faire des animaux qui ne sont pas... Vous allez voir. Pourquoi ? Parce que c'est un système à la Turing, c'est un système de morphogènes, en fait. Ce qui se passe, c'est que ces gènes sont auto-activateurs, ils sont inhibiteurs réciproques. D'accord ? Donc, quand vous surexprimez un de ces gènes, il va se suractiver, il va prendre la place sur l'autre qu'il va inhiber. Hein. Dans une cellule où les deux gènes s'expriment, à cause de ce système d'auto-activation en inhibition réciproque, comme disent les anglo-saxons, « the winner takes all ». Et si, par exemple, ici, je supprime PAX6, je vais partir par là. Et je vais vous donner deux exemples qui sont des exemples vraiment, vraiment impressionnants. Voilà, là, c'est les aires sensorielles en verte, primaires, et les aires visuelles primaires en rouge. D'accord. Ça, c'est un gène qui s'appelle MX2, c'est un gène de la famille. Ça, c'est un gène qui s'appelle SEI, mais en fait, c'est PAX6, c'est pas très grave. Voilà ce qui se passe ici. Ici, je retire MX2 au cours du développement. La taille totale de mon cerveau ne change pas, mais je diminue mes aires visuelles au profit de mes aires sensorielles. Ici, je diminue PAX6. La taille générale de mon cerveau ne change pas, mais je diminue mes aires sensorielles au profit de mes aires visuelles. D'accord ? Et là, il y a un autre truc, c'est deux autres gènes, OTX2, GBX2, qui eux se rencontrent à peu près ici. D'accord ? Donc ça, c'est un cerveau de souris. Et ça, c'est un cerveau de souris normal. Vous avez le mésencéphale. Ici, vous avez la zone de rencontre des deux gènes, OTX2, GBX2. Et dans cette souris, j'ai supprimé 3 copies d'OTX, parce qu'il y a aussi OTX1, mais ce n'est pas très grave, 3 copies. Donc j'ai un quart de la quantité normale d'OTX, mais je n'ai pas changé GBX qui est ici. Regardez, le truc est arrivé jusque-là. Ce qui est impressionnant, c'est que ma souris, je peux la laisser pousser, hein, elle va se développer, elle va faire une vraie souris. Hein. et elle va avoir un comportement bizarre. Normalement, vous prenez une souris normale, vous la mettez dans un open field, c'est-à-dire un champ. Une souris normale, le jour dans un champ, elle explore pendant 5 minutes, puis elle va dormir. Voilà. Ça, c'est sa activité motrice. Dans cette souris-là, elle est incapable de trouver le sommeil. Elle est hyperactive. D'accord. Donc maintenant, imaginez que l'expression de votre gène, qu'on développe, c'est un peu stochastique, c'est-à-dire que ce n'est pas des machines. Hein. Voilà, le gène, il s'exprime plus ou moins bien, il peut avoir un petit problème, maman a eu un rhume, un mauvais moment, j'ai pris 2-3 heures de retard, donc GBX2 a gagné un petit peu, OTX2 a gagné un petit peu, bon. Ça peut tomber dans les limites de la normalité, mais le bord peut se déplacer de quelques cellules. Donc je vais avoir plus de neurones dopaminergiques, en l'occurrence, si j'ai plus de TX2. Et puis je vais être un peu différent de mon voisin, même si j'ai le même génome, hein, totalement le même. Mais bon, le vivant, ça bouge. Hein, donc, et du coup, cette variabilité interindividuelle, elle peut tomber dans une fenêtre normale, quoi. C'est-à-dire que, bon, vous êtes un peu plus hyperactif, mais vous n'êtes pas plus con pour ça. Hein. Un peu plus apathique, mais vous n'êtes pas non plus forcément plus bête pour ça. Le truc. Et puis ça peut déraper. Ça, c'est Ramon y Cajal, il a eu le prix Nobel, je crois, en 1905. Et là, il montre à quel point il a un air associable. C'est la légende de la photo à l'âge de 25 ans. Et vous voyez qu'à l'âge de 75, il n'était pas beaucoup plus marrant qu'à l'âge de 25. Je ne sais pas si c'est un effet du bord dopamine ou pas, mais c'est le même homme. Profitez-en. Hein. Vous allez voir, ça ne dure pas. Donc, ça, c'est un dessin de Ramon y Cajal qui montre comment l'information monte de l'œil, système visuel, et puis va aller soit vers le tectum, soit vers le cortex. Ce que je voulais dire dans cette diapo, c'est que le champ sensoriel est représenté au niveau du cortex. Et ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais c'est représenté, mais je dirais c'est représenté en droit au départ. Vous avez les gènes de développement qui vous font ce qu'il faut. Mais ce n'est pas représenté en fait. C'est-à-dire que pour que cette représentation se stabilise, il faut que vous utilisiez l'organe. D'accord ? Si vous n'utilisez pas les organes, vous n'allez pas développer les organes cérébraux. Donc, utilisez les organes si vous voulez vraiment en avoir là-haut. Et ça, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que je reviens sur ces petites moustaches qu'il y a à la surface de la peau chez la souris. Qui ne sont pas des moustaches, qui sont en fait des récepteurs neuronaux. D'accord. Chacun de ces récepteurs, chacun dessiné là sur la soie, c'est extraordinairement défini, chacun de ces récepteurs est représenté au niveau du cortex, d'autres régions, mais du cortex en particulier, par un petit tonnelet. C'est-à-dire que si je stimule cette moustache-là, c'est ce tonnelet-là qui va être activé. Vous voyez qu'il y a une correspondance entre les tonnelets dans le cortex, qui sont des tonnelets, c'est quoi ? C'est des assemblées de neurones, des petits circuits neuronaux hein, qui sont là et qui sont innervés par des fibres qui viennent de là, qui passent par le thalamus, qui montent, etc. Donc, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, c'est le principe qui compte. Donc, c'est bien parce que chaque fois que je bouge celui-là, je sais que je le bouge. C'est très important que cette connexion soit bien faite. Supposez que ça vous démange ici et vous vous grattiez là, ce n'est pas efficace. Donc, il faut savoir où ça démange, d'accord ? Donc, la souris, elle a besoin de savoir où ça la démange, donc il faut qu'il y ait une bonne connexion. Et ça, c'est un autre problème, sur lequel je n'aurai pas le temps de discuter. Comment est-ce qu'on sait là où on va, quand on est une fibre nerveuse ? C'est aussi un travail sur lequel un domaine d'activité de mon labo. Mais ce que je veux vous faire sentir ici, c'est que si, avant 7 jours de développement chez la souris, 7 jours, c'est pas mal, hein, avant 7 jours de développement, je retire délicatement, sous anesthésie, une rangée de neurones ici, de terminaison. Vous voyez, celle-là, il en manque, là. Vous voyez, au niveau du cortex ? Elle manque aussi. Donc, pendant une période d'apprentissage, si vous ne stimulez pas, vous ne construisez pas ou très mal les représentations au niveau du cerveau. Alors, et ça, c'est vrai de tout. Hein, parce que, par exemple, vous vous imaginez, parce que vous êtes jeune et naïf, qu'on est intelligent jusqu'à un certain âge et qu'après, on devient con. Ce n'est pas du tout vrai. On est con jusqu'à un certain âge. On est intelligent pendant une petite période et on redevient con après. D'accord ? Et cette petite période pendant laquelle on est intelligent s'appelle la période critique. Donc, je ne vous conseille pas de rater la période critique. Parce que si je dénerve avant cette période critique, rien ne se passe au niveau du cortex. Si je dénerve pendant la période critique, je perds la représentation. Et si je dénerve après la période critique, je garde la représentation. C'est la douleur du membre absent. Et ça, c'est vrai pour toutes les modalités sensorielles, affectives, motrices qu'on peut avoir dans un individu de type vertébré qui se construit. D'accord ? Donc, c'est très amusant, la période critique. C'est pas aussi grave que je veux bien le dire. C'est-à-dire qu'en fait, il reste de la plasticité après la période critique. Mais évidemment, elle est moins grande. Hein. Vous avez tous appris à jouer du violon, j'imagine. Voilà. Jusqu'à 15 ans, ça va. Et puis après, ben, les capacités diminuent. Quoi. Elles diminuent parce qu'en fait, le système est beaucoup moins plastique qu'au niveau cérébral. C'est-à-dire que vous avez du mal à reconstruire cette sensibilité qui est celle de la main cérébrale, de la construire, d'augmenter le nombre de synapses, etc., etc. Mais ce n'est pas nul, c'est-à-dire que c'est toujours possible. C'est pour ça que c'est dur d'apprendre une langue étrangère après un certain âge, etc., parce que en fait, là-haut, c'est moins plastique. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas trop bon d'être plastique. Si vous étiez trop plastique, vous ne seriez jamais, vous avez laissé vos clés. Trop de plasticité, c'est l'Alzheimer, voilà, d'une certaine façon. Donc être trop plastique, ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, c'est très rigolo, parce que si vous prenez un urodèle, vous savez, c'est des sortes de crapauds à queue, là, des vertébrés dites inférieures. Vous coupez sa queue à un urodèle, ça repousse. Hein, avec le système nerveux, la moelle épinière, tout ça, vous coupez un morceau de cerveau, ça repousse. Vous faites ça chez nous, je ne vous conseille pas, mais ça peut arriver, hein, quand on perd un membre, ça ne repousse pas, d'accord ? Donc, sur le plan évolutif, c'est intéressant parce qu'il y a une évolution de la régénération qui fait qu'en fait, au fur et à mesure où on monte, c'est peut-être excessif de dire on monte parce qu'en fait, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de finalité dans l'évolution. Mais chez nous, les systèmes de régénération sont bloqués. Donc, il y a gain derrière. Le gain derrière, c'est qu'il y a plus de mémoire, il y a plus, etc. Donc, je ne sais pas à quoi pensent les urodèles, mais ça ne doit pas être très, très fameux. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais dans cette histoire. On ne gagne pas à tous les coups. Les représentations sensorielles, et motrice, hein, bien entendu, parce que les systèmes moteurs sont aussi très importants. Vous verrez que ça, c'est sensoriel. Oui, c'est sensoriel. Sensoriel parce que, vous voyez, on voit les organes génitaux. Et il n'y a pas de système moteur pour les organes génitaux. Donc, et curieusement, ils sont sous le pied. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra m'expliquer. Dans le cortex, ils sont représentés sous les pieds. Voilà. Donc, d'une certaine façon, voilà comment ça se passe. Vous avez un homonculus génétique, les génox. Hein, je vous ai montré au départ les génox qui permettent de construire ce qu'on peut appeler l'homonculus du miroir, hein, c'est-à-dire celui que vous regardez dans la glace, mais qui n'est qu'une représentation du corps parmi des milliers d'autres. En fait, nous en avons quatre parce que nous avons quatre chromosomes, quatre complexes. Et puis le corps qui est effectivement l'homonculus que j'appelle l'homonculus du miroir, c'est-à-dire celui que vous pouvez regarder dans la glace. Et puis ça monte, cette représentation qui n'est qu'une représentation finalement. Elle monte vers les organes cérébraux. Là-haut, vous en avez des dizaines et des centaines de représentations de ce type. Hein. Et elle monte, ça rappelle ce qu'on voit là, hein. Mais c'est déformé. Et c'est déformé parce que l'intensité, ça ce sont des réseaux neuronaux, d'accord. L'intensité des réseaux neuronaux est dépendante, évidemment, de l'intensité de l'innervation sensorielle de départ. C'est-à-dire plus vous avez de constructions sensorielles, ça c'est le mot sensoriel, hein. Plus vous avez de terminaisons sensorielles dans un organe, plus il va être représenté au niveau cérébral. Mais en même temps, ça va être aussi dépendant de l'activité, parce que plus vous allez le stimuler pendant les périodes dites périodes critiques, plus ces organes seront représentés au niveau cérébral. Et ça bouge là-haut. Et ça bouge. Je dis souvent, on ne se baigne jamais deux fois dans la même personne. Parce que, en fait, vous pensez que c'est fixe, mais ce n'est pas du tout une machine, cette machine d'esprit. En fait, c'est vivant, c'est-à-dire que les cellules meurent. Les cellules reproduisent, il y a beaucoup de neurones qui poussent dans le cerveau, en fait. Les fibres nerveuses se défont, se refont, et ça, c'est en fonction, évidemment, de la vie que vous menez, c'est-à-dire qu'en fait, chaque expérience s'inscrit d'une certaine façon dans le cerveau. Si je prends M. Mariani, qui est là et qui a un âge respectable, mais si je vous prends Alain et que je vous fais par la pensée rajeunir de 30 ans, ça reste respectable. Mais si maintenant je vous fais repartir encore 30 ans, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas la même personne, vous n'avez pas la même histoire et vous n'avez pas le même cerveau. Il y aura des choses communes. Et maintenant, bientôt, on va pouvoir faire la manip. Parce que bientôt, je vais pouvoir vous prendre un fibroblast sur le gras du bras, là, y introduire 4 gènes, faire une cellule souche pluripotentielle, faire pousser ces cellules, les réintroduire dans un mère porteuse et vous faire une copie de vous totalement que je vais pouvoir faire repartir. Et alors imaginez que je vous prenne un fibroblaste à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans. Vous pouvez avoir toute une série de petits frères qui sont nés à des âges différents. Ça va être formidable. Ah oui, c'est quand même sympa la science. Donc maintenant, je vais vous expliquer brièvement pourquoi nous ne sommes pas des singes. Vous avez vu que je suis tout à fait hostile à l'idée que nous sommes des singes. Et on est des singes, d'une certaine façon. C'est être et ne pas être un animal. Alors, voilà ce qui se passe. On s'est séparé, si vous voulez, des... Voilà, il y a environ 12 millions d'années des grands singes, hein, les hominoïdes. Et puis, voilà le gorille, là, 6 ou 8 millions d'années. Et il y a 4 ou 6 millions d'années, ben, on est... Voilà, Lucie, vous avez entendu parler de Lucie, Toumaï, enfin, vous lisez un petit peu Science et Vie? Non, moi non plus. Donc, voilà, ici, on s'est séparé des chimpanzés, voilà. Puis, ici, on s'est séparé des chimpanzés. Voilà, c'est deux types de chimpanzés, c'est pas une troglodyte, c'est pas une paniscus, mais bon, c'est pas le problème. Mais ce sont effectivement les primates les plus proches de nous. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, comme je vous le disais, ben, évidemment, on a augmenté de taille. Le cortex, le cerveau a augmenté de taille. Mais ce qui est le plus important, c'est n'est pas tellement la taille qui compte, mais c'est la taille par rapport au corps. D'accord ? À quoi ça sert un cerveau, essentiellement ? Au départ, un cerveau, ça sert à bouger. Un cerveau, ça sert... Les plantes n'ont pas de cerveau parce qu'elles ne bougent pas. D'accord ? Bon, elles ont d'autres avantages, mais elles n'ont pas de cerveau. Elles ont un gros avantage, c'est que tout leur vient sans se fatiguer. Hein. Et la chlorophylle, là, ça prend l'énergie solaire, il y a les minéraux, ça pousse, le sexe, ça vient par les airs avec les insectes, pas besoin de bouger pour se nourrir. Bon, évidemment, s'il y a Beauvais qui passe, surtout si on est une plante transgénique. Mais nous... Enfin, les animaux, ça bouge. Ça bouge pour chercher sa bouffe, ça bouge pour ne pas servir de nourriture à un autre, ça bouge pour chercher un partenaire sexuel, ça bouge pour échapper à un partenaire sexuel. Et ça, c'est un mouvement qui est lié à l'analyse de l'environnement. D'accord ? Donc, vous comprendrez tout de suite qu'il y a un rapport net entre la surface d'un cortex et la taille d'un individu, parce que c'est sensorimoteur de bouger. D'accord ? Donc, si je regarde la taille du corps hein, et le poids du cerveau, vous voyez qu'en fait, quand je suis chez les singes, j'ai une relation de linéarité en fait, entre la taille de mon corps et la taille de mon cerveau. Mais dès que je passe dans le genre homo, même, ça c'est les australopithèques, donc c'est Lucie, Toumaï, 6-7 millions d'années, Homo habilis, qui est le plus ancien, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo sapiens. Vous voyez qu'on est totalement en dehors de l'épure. En fait, la taille de sapiens nécessiterait un cerveau d'environ 400 cm3 pour les fonctions de base, bouger. Donc, nous avons 900 cm3 de trop, en gros. 900 à 1000 cm3 de trop. C'est la catastrophe, hein, parce que ça fait des poètes, ça fait des savants, ça fait des suicidés, ça fait... C'est ça, les 1000 cm3 de trop. Donc, mais, désolé, il n'y a pas de marche arrière. On ne peut pas revenir à... On était peinards, hein, dans la forêt, dans le truc, avec les singes, c'était sympa. Mais maintenant, il y a l'angoisse existentielle, enfin, tous ces trucs qui font que c'est plaisant, mais que bon, vous allez voir. Il faut... Oui, ça fait tout ça. Donc... Ces 900 cm tout fait que nous, on n'est pas des singes. En même temps, évidemment, ils sont arrivés de façon génétique, ils sont arrivés par l'évolution, ils sont arrivés parce que nous sommes des bêtes. Il ne faut pas oublier la bête en soi non plus, hein, parce que non, c'est vrai que pour la contrôler. Mais en même temps, bon, il y a cette chose qui s'est développée, cette espèce de truc-là qui a poussé, qui est une hypertrophie, qui est une catastrophe. C'est-à-dire que je le dis là sérieusement maintenant, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une hypertélie. C'est un petit peu comme les défenses des mammouths, vous savez. Ça faisait beau d'avoir des belles défenses, ça plaisait aux dames mammouths et tout ce que vous voulez, mais un jour, ils étaient tellement gros qu'ils ne pouvaient plus bouger dans la forêt, et hop, adieu mammouth. Donc, ben nous, je pense que nos circonvolutions cérébrales, c'est un peu comme les défenses du mammouth. C'est-à-dire que c'est pas ça, forcément, ça va peut-être amener à la fin de l'espèce humaine. C'est pas impossible, hein. Un cas d'hypertélie. Mais bon, on ne fera pas de marche arrière et je ne conseille pas, profitez-en. Voilà. Donc, mais comment ça s'est passé, ça? Ça s'est passé, et c'est ça qui est très extraordinaire, c'est que ça s'est passé extraordinairement rapidement. Je vous disais au début de cet exposé, qui maintenant est un petit peu long, mais enfin, je vais peut-être vous parler une vingtaine de minutes, parce que ça va devenir un petit peu technique, hein, cette histoire. Mais bon, il faut quand même aussi qu'il y ait des moments difficiles. Et la fin, c'est toujours plus difficile que le début. Donc, ça s'est passé très rapidement. Je vous le disais tout à l'heure, 120 000 ans. Voir que 120 000 ans, c'est rien, hein, dans l'histoire de l'évolution. Ça a passé très rapidement et ça a été extrêmement brutal. C'est-à-dire que vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure l'histoire du truc. Hein. Sapiens, 120 000 ans, 1450 cm3 de cerveau pour une taille d'environ 1,80 m, un peu plus aujourd'hui, mais en moyenne, c'est quand même ça. Néandertal, qui est notre cousin, hein, on a cohabité avec Néandertal. Un Néandertal est mort il y a 30 000 à 40 000 ans. C'est nous qui l'avons tué, probablement. C'est le premier génocide, c'est les Néandertaliens. Hein. Ils avaient des gros cerveaux aussi, ils étaient à peu près comme nous. Ils avaient des gènes aussi qui probablement leur permettent de parler. On peut le savoir aujourd'hui, ils avaient probablement les gènes du langage. Et puis vous voyez, l'augmentation de la surface du cortex, c'est un truc qui s'est produit de très 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 grande vitesse. Alors, c'est lié à différentes choses. Premièrement, toutes ces cellules qui font le neuroépithélium, ben, il y en a plus. Donc il y a un problème, soit elles ont proliféré plus, soit elles sont moins mortes. Hein, parce que tous les ans, vous changez entre 70 et 80 kilos de cellules dans votre corps. Il faut savoir ça, c'est-à-dire que vous avez un renouvellement permanent, vous êtes en régénération permanente, que Claude Bernard appelle l'embryogenèse silencieuse, celle que vous ne voyez pas. Vous êtes en steady state, mais ça ne veut pas dire que vous avez les mêmes molécules, ça certainement pas, sinon ça ne sert pas à peine de manger. Vous n'avez pas non plus les mêmes cellules. Les seules cellules qui peuvent vivre une centaine d'années, c'est les cellules cérébrales, et encore pas toutes, car il y a deux régions dans le cerveau qui se renouvellent de façon très importante, avec une renouvellement cellulaire. Mais même si les cellules restent, elles changent de forme. D'accord. Donc, il y a de la mort, c'est-à-dire qu'il faut un équilibre. Si les cellules cessent de mourir, vous avez des cancers. Hein, c'est-à-dire que vous avez une hypertrophie cellulaire. Donc, cet équilibre entre la génération de cellules et la perte de cellules est quelque chose d'évidemment très important. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on a un cerveau plus grand, c'est parce qu'on a plus de cellules. Ça peut être une augmentation de la prolifération cellulaire, c'est du temps du développement. Hein, par exemple, le temps pendant lequel les cellules peuvent se développer. Et ça, je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, ce n'est pas le gène, c'est le temps pendant lequel ces gènes s'expriment. Et puis, ça peut être aussi au fait que tout d'un coup, il y a des cellules qui meurent moins, donc il en reste plus, et comme il en reste plus, on a un cerveau plus gros. C'est ce qui se passe, alors, les cellules sont des cellules souches. Donc, la prolifération des progéniteurs dans ce neuroépithélium, hein, très fin, une couche cellulaire au départ, est un élément de régulation qui peut expliquer que nous ayons augmenté la taille de notre cortex. Et l'ayant augmenté, évidemment, ça fait des plis, hein, parce que, bon, il faut se rentrer dans la boîte. C'est l'avantage d'avoir un cerveau feuille. Hein. Imaginez les insectes. Les insectes, c'est des animaux qui ont un ganglion dans le cerveau. Leur cerveau, ce n'est pas une feuille, ce n'est pas un tube, c'est un ganglion. Si vous augmentez la taille du ganglion, vous avez un rapport poids-volume qui n'est pas favorable. C'est-à-dire qu'à un moment, ça devient d'une lourdeur épouvantable. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus voler quand vous volez. Vous pouvez vous déplacer, vous avez le cerveau comme ça, comme dans le film de Gérard Houry. Là. Puis en plus, ça se nécrose au centre, parce qu'il faut irriguer tout ça. Vous ne pouvez pas avoir un neurone qui a moins de quelques microns d'un vaisseau, hein, dans votre cerveau. Sinon, le neurone, il meurt. Hein. Il faut quand même qu'il y ait l'oxygène qui arrive. Vous savez, le cerveau, c'est 5% de neurones. Le reste, c'est des cellules gliales, c'est des cellules neuronales, c'est des vaisseaux, c'est des macrophages, c'est ça. Hein. Alors, il y a beaucoup de fibres, bien sûr, donc les neurones prennent beaucoup de place. Mais au niveau corcellulaire, les vaisseaux, c'est... Ben là, vous faites une hémorragie cérébrale, vous voyez ce qui se passe tout de suite. Donc, le cerveau plan, c'est formidable, parce que vous pouvez augmenter la taille du truc autant que vous voulez. Les vaisseaux sont là pour aller innerver dans la petite couche, comme ça. Et ensuite, vous le repliez, hop, voilà. Donc, vous n'êtes pas bloqué au niveau évolutif. Donc, l'invention du plan dans la construction du cerveau, c'est un grand moment de l'évolution. 200 millions d'années. D'accord ? Il y a 200 millions d'années. Là, ce que vous voyez chez Sapiens, c'est qu'effectivement, le cerveau s'est développé et que vous commencez à avoir des plis, et c'est ce qu'on appelle les circonvolutions cérébrales. Si vous regardez un cerveau d'homme, c'est extraordinairement circonvolu. Donc là, je ne vais peut-être pas vous embêter avec tout ça, parce que c'est trop compliqué, en fait. Oui, parce que, bon, ça ne reste pas une couche cellulaire. Hein. Il y a plein de couches cellulaires. Ensuite, bon, les cellules migrent, elles vont faire les différentes couches du cortex. Et vous voyez, au cours de l'évolution, comment ça s'est passé? Parce que ça, c'est différentes bestioles. J'ai pas... Vous voyez ça mieux que moi, j'imagine. Mais Là, je crois que c'est nous. Et vous voyez que c'est la même structure, hein, fondamentalement, chez les... Ça, c'est un singe, vous voyez que c'est la même structure, mais on a plus de cellules, et en particulier, on a plus de cellules dans les régions superficielles du cortex, qui sont celles qui font les neurones inhibiteurs. En fait, l'inhibition s'est énormément augmentée au cours de l'évolution. Donc, je reviens à mon histoire, pourquoi on n'est pas des singes. C'est là-dessus que j'aimerais terminer. Voilà, là, il y a 7-8 millions d'années, hein, quand on s'est séparés de nos collègues. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est beaucoup plus près des singes que des autres bestioles. Hein. Donc, c'est vrai que les chimpanzés sont nos proches cousins. Hein. Là, c'est Néandertal. Néandertal et les singes, voilà. Donc ça, en bleu, je crois que c'est une façon de distinguer, de mesurer, si vous voulez, la distance entre deux animaux, dans un même phylum, hein, essentiellement, dont chez les primates, c'est de regarder les mutations dans l'ADN mitochondrial. Vous savez que les mitochondries, c'est le petit organelle qui permet de faire de l'énergie, c'est nos chloroplastes à nous, d'accord ? Donc les mitochondries font l'ATP. L'ATP, c'est ce qui vous permet de bouger essentiellement, de réfléchir, etc. Vous synthétisez 60 kilos par jour d'ATP. D'accord ? Donc, c'est important, la mitochondrie. Mais la mitochondrie, c'est une ancienne bactérie. Alors, comment est-ce que c'est venu, les mitochondries ? Les mitochondries, en fait, ce sont les premiers organismes eucaryotes, hein, sont en fait ce qu'on appelle des symbiontes. C'est-à-dire que ce sont des bestioles qui sont la fusion de plusieurs bestioles. Et ce sont des bactéries qui ont mangé d'autres bactéries. Hein, et les bactéries qui ont été mangées se sont transformées soit en chloroplastes chez les plantes, soit en mitochondries chez les animaux. D'accord ? Et aussi en mitochondries chez les plantes. Il y a aussi des mitochondries chez les plantes. Il y a aussi des chloroplastes qui permettent de transformer l'énergie lumineuse. Donc ces mitochondries sont d'anciennes bactéries. Et ces anciennes mitochondries, il y avait donc un génome de bactéries. Mais c'est fatigant d'avoir un génome de bactéries quand on est une mitochondrie, donc elles ont balancé leur génome dans le noyau de la cellule. Donc en fait, c'est la cellule qui fabrique pratiquement tous les gènes qui permettent de fabriquer les protéines mitochondriales, que les mitochondries importent. Hein, c'est la délocalisation, en gros, quoi. C'est-à-dire qu'on fait faire à l'extérieur et on réimporte chez soi à un coût moindre. C'est exactement ça. Mais les mitochondries ont gardé 13 gènes. Mitochondriaux qu'on fait toujours à la maison sur 6000. Et donc, si on regarde le génome mitochondrial, c'est un génome dont on peut mesurer les mutations, et ces mutations sont un index de la distance qu'on a avec nos cousins. Donc, vous voyez ici, c'est sur la base des séquences des génomes mitochondriaux, la distance entre Sapiens et Néandertal. Vous voyez qu'on est très très proche de Néandertal qui est en rouge. Donc, vous voyez que comme ça, on peut mesurer de certaine façon à travers l'ADN mitochondrial. Donc, ça vous montre à quel point on était très très proche des Néandertaliens. Alors, ça, c'est la culture chimpanzé. Alors, toujours, on vous dit oui, on a 1,3% de différence sur la place des mutations. Et puis, ils ont une culture, les chimpanzés. Alors, vous voyez, la culture des chimpanzés, c'est essentiellement la brindille à termites et le lavage des pommes de terre. Parce qu'il y a un jour, il y a un chimpanzé qui était au bord de la rivière, il a laissé tomber une patate dans la flotte et il s'est rendu compte qu'elle était beaucoup plus propre après qu'avant. Donc c'était plus facile pour la manger. Donc tout le monde a imité qu'on a laissé tomber les patates dans la flotte et on a mangé. Et ça n'a pas énormément évolué. Donc oui, ça c'est la culture chimpanzé. Et ça c'est un truc qui est important, c'est par rapport à ce que je vous disais au départ sur le temps du développement. C'est-à-dire que ça c'est un pan troglodytes. Vous voyez qu'à la naissance, un pan troglodytes, c'est un chimpanzé, a déjà 50% de son cerveau. Et nous, à la naissance, Sapiens doit être par ici, hein, à la naissance, on doit avoir 10% de notre cerveau. D'accord ? Donc, en fait, on a un développement beaucoup plus lent, hein, et une neurogénèse beaucoup plus importante, postnatale, que les chimpanzés. Donc, comment se fait-il que si peu de mutations, parce que c'est vrai, quand on fait la séquence du génome, on se rend compte qu'on a une différence en mutation de 1,7% entre nous et le chimpanzé, que si peu de mutations aient pu avoir des effets aussi importants sur le phénotype de la bestiole qui est au bout, parce que nous sommes des animaux. Alors, d'abord, il n'y a pas que les mutations ponctuelles. Vous pouvez voir ici, il y a ce qu'on appelle des duplications géniques et des paires de génomes. C'est-à-dire qu'il y a des grands fragments du génome qui se sont multipliés et qui ont été stabilisés. Et si vous faites ça, vous vous rendez compte que déjà vous avez des changements de duplication. Donc là, déjà, vous arrivez à 6,4% de différence, rien qu'en rajoutant ça. Mais à la limite, ce n'est même pas le plus important. Le plus important, c'est, comme je vous disais, là où ça tombe. Alors, ça peut tomber dans des gènes de structure. Je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que ça tombe dans des gènes régulateurs. Mais ça peut aussi tomber dans des gènes de structure. Il y a un gène de structure qui est très rigolo, il s'appelle FOXP2. Alors, ça ne vous fait pas rire du tout, mais il est très rigolo parce qu'il a à voir avec le langage. Le langage, c'est quand même un truc qui est important. Donc, il y a une famille dans laquelle, quelques familles dans lesquelles les enfants sont intelligents, pour autant qu'on puisse mesurer cette chose qu'on appelle l'intelligence, un autre débat. Mais ils ont des problèmes de grammaire, et ils ont surtout des problèmes d'élocution, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas parler, en gros. Et cette famille, les généticiens, quand ils ont une famille, ils sont contents parce qu'ils vont chercher les cousins, les machins, tout ça, et puis comme ça, ils peuvent localiser le gène qui est impliqué, et puis après, ils peuvent localiser les mutations éventuelles qui sont impliquées. Et dans ce cas-là, c'est effectivement une mutation qui est dans ce qu'on appelle la séquence codante, pas dans les séquences régulatrices, d'accord ? Et ce gène, il s'appelle FOXP2. Et donc, ce gène, il est présent chez tous les vertébrés. On le trouve chez les poulets, on le trouve chez la souris, on le trouve chez les... Alors, autre chose, quand vous avez une mutation dans un gène, il y a des mutations qui sont neutres, c'est-à-dire que si vous changez, par exemple, une alanine en valine, ça ne fait pas grand-chose. Mais vous changez un acide aminé acide, comme l'aspartate, un acide aminé basique, par exemple, comme la lysine ou l'arginine, ça fait un grand changement de propriété chimique de votre protéine. Si vous changez un acide aminé hydrophile, un acide aminé hydrophobe, vous allez avoir un changement de structure de votre protéine aussi. Et donc ça, ce sont des mutations qui peuvent être très importantes. Mais il y a des tas de mutations qui sont neutres du point de vue de l'évolution. D'accord ? Donc quand on vous parle de mutations, faites attention, pour ceux d'entre vous que ça amusera un jour de faire ça, il y a les neutres et il y a les pas neutres. C'est très important, les mutations neutres, parce que quand vous avez un espace de mutation neutre, vous pouvez bouger dans un espace virtuel évolutif sans que ça change quoi que ce soit. Mais vous pouvez vous approcher d'un bord où ça va changer quelque chose. Qu'une deuxième mutation, paf, peut vous faire un grand changement. Donc les mutations neutres, elles sont neutres, c'est-à-dire qu'elles ne font rien, mais elles peuvent être très importantes dans ce qu'on appelle l'évolvabilité d'un organisme. L'évolvabilité, c'est fondamental, parce que si on n'est pas capable d'évoluer, on disparaît. Il faut quand même un petit peu de robustesse, parce que si on évolue trop, ça ne marche pas non plus. Donc, toujours est-il que la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est qu'entre nous et le chimpanzé, vous voyez ici, le chimpanzé, il a accumulé 5 mutations. Et ces 5 mutations qui sont des mutations neutres, c'est-à-dire qui ne changent pas la structure de la protéine. Mais nous, entre le chimpanzé et nous, on a accumulé 2 mutations, et ces 2 mutations sont des mutations qui sont extraordinairement importantes. Elles sont des mutations qui ne sont pas neutres pour un rond. Et vous voyez ici, la plupart des mutations qui sont produites avant nous sont des mutations neutres. Donc c'est un gène qui a très peu évolué et qui a énormément évolué entre nous et les chimpanzés. Et c'est un gène qui est impliqué dans les systèmes moteurs. Parler, ça vous est tout à fait naturel. Mais il y a deux choses qui sont passées. D'abord, le larynx est descendu. Ce qui n'allait pas de soi, parce que c'est pour ça qu'on peut avaler de travers, ça peut être très dangereux sur le plan évolutif. Mais ça est un avantage sur le plan de l'addiction. Et en même temps, c'est un système qui est extraordinairement représenté au niveau moteur et sensoriel, parce que c'est un mouvement extraordinairement fin de la langue, du palais, de la bouche. C'est-à-dire que la capacité locutrice, ce n'est pas uniquement un truc intellectuel, c'est aussi un truc moteur. Et de ce fait, il y a énormément de gens qui pensent que le langage est venu, en fait, des systèmes moteurs, de l'imitation motrice. Donc, si vous voyez ici, c'est que les aires classiques impliquées dans le langage, qu'on appelle les aires de Broca et de Wernicke, qui sont ici en jaune, sont très très proches des aires qui sont impliquées aussi dans l'imitation gestuelle. Donc, pour beaucoup de biologistes de l'évolution aujourd'hui, le langage est venu du système moteur. Et évidemment, ces mutations qui affectent les aires motrices fines, évidemment, peuvent avoir des conséquences importantes sur le développement du langage, mais aussi sur l'évolution du langage. Évidemment, tous les gens qui s'intéressent à l'évolution du cerveau s'intéressent à l'évolution des gènes. Mais il n'y a pas que les gènes, il y a les expressions de ces gènes. Alors l'expression d'un gène, c'est quoi ? Vous avez l'ADN, vous avez la transcription de l'ADN en ARN, un gros ARN qui est coupé parce qu'il y a des séquences au milieu, donc il faut qu'il y ait un truc qu'on appelle l'épissage. Je passe là-dessus. Il y a ensuite, évidemment, le transport du messager, et puis il y a la traduction, parce qu'il faut les protéines. Donc vous avez plein d'éléments régulateurs de ce type, et en fait, vous allez voir, je vais le dire très rapidement maintenant, que l'évolution de Sapiens a joué essentiellement sur tous ces systèmes de régulation, bien plus que sur les systèmes de structure, comme je vous le disais au départ. On peut regarder dans un organisme, on peut comparer un homme et un singe, par exemple, on peut regarder quels sont les gènes qui sont exprimés. Alors, il y a des gènes qui ne sont exprimés que dans un seul organe. Alors, évidemment, si ce n'est que dans un seul organe, eh bien, on va accepter pas mal de mutations. Il y a des mutations qui ne passeront pas à la barrière, vous voyez ici, par exemple. Mais on peut en accepter pas mal. Donc, si je suis dans le cerveau, ça va être un tout petit peu plus stringent, apparemment. C'est-à-dire qu'il y a des mutations qui sont quand même plus difficiles à accepter. Et si je suis exprimé dans plusieurs organes, ça va être encore plus dur, parce qu'il faut que je prenne des phases dans aucun organe. D'accord ? Donc, un gène qui va exprimer que dans un seul organe. Et alors, un seul organe. Vous imaginez, le cerveau, ce n'est pas un seul organe. Vous avez un nombre de types cellulaires incroyable. Donc, en plus, c'est très hétérogène. Une mutation dans une cellule gliale, ce n'est pas une mutation dans un neurone. Une mutation dans un petit vaisseau, ce n'est pas une mutation dans un neurone. Donc, quand vous extrayez un cerveau pour prendre les messagers, pour voir qu'est-ce qui est exprimé, en fait, vous avez un très grand mélange de cellules. Donc, ça, c'est des problèmes importants pour les biologistes. Alors, maintenant, ce qu'on peut, heureusement, c'est prendre une cellule, pomper le contenu de la cellule, et faire la séquence de tous les messagers dans cette cellule. Donc on peut avoir, par cellule, qu'est-ce qui se passe. Ça s'appelle le deep sequencing. L'autre chose qu'il faut savoir quand on vous parle de ça, c'est que les gènes, ça ne joue pas pour tout seul. Les gènes, ça fonctionne en bande. Ça chasse comme les loups, ça chasse en bande, les gènes. C'est-à-dire que si je modifie un gène, il y en a 100 autres qui vont se modifier en même temps. Donc ça fait des hubs, comme dans les aéroports. Et c'est pour ça que c'est régulé, parce que si je vous augmente votre température corporelle de 10%, passer de 37 à 40, d'accord ? Vous ne tenez pas 15 jours. Au bout de 15 jours, vous êtes mort. Si je passe de 37 à 33, c'est pareil, au bout de 15 jours, vous êtes mort. Ça, c'est l'aspect de la physiologie. C'est-à-dire que les petites différences, c'est important. Mais pour les gènes, c'est pareil. Vous ne pouvez pas accepter qu'un gène important soit dérégulé de 10% pendant un temps important. C'est de la physiologie. Donc, vous avez un système de régulation qui fait que vous avez des réseaux de gènes qui, quand il y en a un qui déconne, on le ramène à la raison, parce que ça régule avec tous les autres, on le ramène au taux d'expression normal. Sauf si, à un moment, il faut qu'il s'exprime très fortement. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas quelque chose comme un gène. Le type qui vous dit, vous avez le gène de la schizophrénie, vous pouvez lui dire, allez, c'est pas possible. Les gènes importants sont forcément des systèmes qui sont extrêmement contraints et régulés au sein de réseaux. Donc là, ce que les gens ont dessiné, c'est tous les gènes, voilà, ça c'est un hub, c'est tous les gènes qui fonctionnent dans le même réseau. Ben, quand on compare entre le chimpanzé et Sapiens, vous voyez qu'ici, par exemple, il y a un réseau, le réseau bleu, qui est un réseau qui est très spécifique de Sapiens. Et ça, c'est dans les éléments, évidemment, régulateurs, qui fait que tous ces gènes vont fonctionner ensemble. Ils vont réagir aux mêmes éléments de régulation, en quelque sorte. Et c'est quoi, ces gènes ? C'est des gènes qui sont impliqués, pour l'essentiel, dans le métabolisme énergétique. C'est-à-dire la fabrication d'énergie. Votre cerveau consomme 20% de l'énergie corporelle. C'est-à-dire que sur les 60 kg d'ATP, il y en a 20%, 12 kg, qui vont pour ça, sport cérébral. C'est une contrainte évolutive extraordinaire. Vous imaginez, parce que le cerveau, c'est jamais que 2% du poids du corps. Ça veut dire que le cerveau est important, c'est-à-dire qu'on est obligé de consacrer énormément de son activité de prédation, d'aller chercher, parce que bon, il fallait aller chercher des bestioles dans la savane, pour nourrir le truc ici qui consomme, parce que comme notre cerveau, lui, il a 900 cm3 de trop, les 900 cm3, ils ont coûté cher en énergie. Donc ils coûtent cher, donc on voit l'avantage évolutif quand même, d'ailleurs on le voit bien, même si à long terme, c'est pas forcément un avantage, mais bon. Pour l'instant, ça nous a pas mal réussi. Nous sommes l'espèce qui a le mieux réussi. On était 10 000, il y a 120 000 ans, 10 000, en Afrique, avec les lions, avec les serpents, avec les singes, tout petit, tout nu, vous avez vu un nourrisson ? Eh bien, malgré ça, nous sommes 120 000 ans plus tard, 7 milliards bientôt en 2012, et 1 sur la Lune. D'accord ? Donc, aucune bête ne l'aurait fait. Donc, c'est une espèce qui a... On a occupé 70% de la surface de la Terre. Aucune espèce n'a pu faire ça. Donc, ce cerveau, c'est un truc, un avantage magnifique. Mais c'est un avantage qui a coûté très cher en énergie. Donc, le métabolisme énergétique, et c'est aussi pour la marche à pied. La marche à pied a été... vous savez, les gazelles, ça court très vite, mais pas longtemps. Nous sommes la seule espèce marathonienne. Et en fait, la façon dont nous avons été capables dans la savane d'attraper les animaux, c'est pas de courir plus vite qu'eux, c'est pas uniquement la lance et l'outil, c'est pas uniquement la technique, même si nous sommes des animaux techniques, hein, sans la technique, on ne se serait jamais sorti, bien entendu. Nous sommes des animaux techniques. Mais c'est aussi de suivre la bête pendant des heures et des heures et des heures, jusqu'au moment où elle était épuisée, totalement épuisée, où elle s'écroule, et il n'y a plus qu'à la saisir et la tuer avec un petit canif. Hein. Donc la marche à pied, la station bipède et la marche à pied, sont d'endurance, est une très grande caractéristique de Sapiens. Donc les gènes qui ont le plus vite évolué chez nous sont des gènes du métabolisme énergétique. Hein. La consommation, la production et la consommation de glucose. Et l'autre chose, c'est évidemment les gènes qui sont impliqués dans le système nerveux, c'est-à-dire les synapses, la forme des neurones, la sécrétion de neurotransmetteurs, etc. Donc ce sont les deux domaines qui sont les plus importants pour l'évolution de Sapiens. Et ça s'est fait extrêmement rapidement. De nouveau, c'est pour attirer l'attention sur ce qui est important, c'est pas le nombre de mutations, c'est là où ça tombe. Et là, c'est des gens qui ont été chercher des régions qui sont très conservées dans toutes les espèces, des petites régions, disons 100 paires de bases, c'est tout petit, hein, petit morceau de génome, tout petit, très très conservées, qu'on retrouve dans toutes les espèces, mais qui ont très rapidement évolué chez Sapiens. Ils ont appelé Human Accelerated Regions, HAR, hein. Et ces séquences, qui sont toutes petites, sont en fait des ARN régulateurs. Ce sont des séquences qui permettent de réguler l'expression d'autres gènes et qui sont très fortement exprimées dans le cerveau. Voilà un ici qui est impliqué dans la migration neuronale. Je l'ai mis parce que je pensais que j'aurais le temps de vous en parler, mais je me suis rendu compte en vous parlant qu'il ne fallait pas que je rentre dans trop de détails. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer trop de détails, mais juste celui-là, c'est un article qui est sorti hier dans la revue Nature et qui montre un truc tout à fait ahurissant. Alors, vous voyez, ces deux zones-là sont des zones où il y a la neurogénèse chez l'adulte. C'est-à-dire, c'est des zones où on continue à faire des neurones chez l'adulte. Il y en a une, c'est le bulbe olfactif, parce que ça vient du nez. Et les neurones migrent à partir d'une structure intracérébrale qu'on appelle la zone ventriculaire, et qui vont aller faire des neurones dans les bulbes olfactifs, parce que c'est un organe qui change à peu près tous les mois chez nous. Chaque fois que vous vous mouchez, vous perdez un grand nombre de neurones. Parce que vous avez tous vos récepteurs qui sont là. Donc, en fait, vous perdez énormément de neurones à la surface du nez. Enfin, à l'intérieur. Hein. Je ne vais pas mettre mon doigt dans mon nez. C'est très disgracieux. Donc, vous reconstruisez les réseaux tout le temps, là. Donc, ces réseaux-là, vous les reconstruisez tout le temps. Et vous avez un turnover au niveau du bulbe. Et une autre région, c'est l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est une région qui est impliquée dans la mémoire. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, ça ne bouge pas trop dans le cortex, il n'y a pas trop de régénération. C'est vrai. Mais les informations qu'on stocke dans le cortex, il faut les passer par quelque part. Ben, il passe par l'hippocampe. C'est-à-dire que vous passez dans l'hippocampe, ce qu'on appelle la mémoire de travail, et il y a des informations que vous allez effacer, parce que bon, puis il y en a d'autres qui vont monter dans le cortex, qui vont être consolidées dans le cortex, qui vont y rester. C'est pour ça que quand quelqu'un perd son hippocampe, Alzheimer, alcoolisme invétéré, syndrome de Korsakoff, vous perdez votre hippocampe, vous allez vous souvenir de choses très anciennes, mais vous ne serez pas capable d'apprendre des choses nouvelles. Comme dit l'autre, quand on a un Alzheimer, on se fait toujours de nouveaux amis. Tous les jours. Donc, mais par contre, s'il y a quelqu'un qui a une démence, tout d'un coup, vous allez le voir parler allemand parce que sa mère lui parlait allemand quand il était petit, etc. Ça va rester parce que c'est là-haut. Mais le barillet qui permet d'entrer dans le cortex les informations nouvelles, il est mort. Mais ce barillet, c'est un endroit où il n'y a pas de période critique. Un endroit où les neurones se renouvellent en permanence. C'est l'hippocampe. Voilà ici. Hein. La région du bulbe, la région de l'hippocampe. Or, ce qui a été démontré par cet article, ça c'est la revue sur l'article, c'est pas l'article lui-même, eh bien, c'est qu'à ce niveau-là, il y a de la recombinaison génétique permanente. C'est-à-dire qu'il y a des gènes qui sont... Ben, des gènes, tout est mobile dans un corps. Hein. Il y a les cellules qui sont mobiles, et les gènes aussi sont mobiles. Hein. Donc les gènes, il y a des morceaux de gènes qui sortent, qui se réimplantent ailleurs, qui vont aller sauter, et faire, ça crée de la mutation. Hein. C'est-à-dire que quand il y a un gène qui s'insère quelque part, ben, ça interrompt quelque chose. Donc ça fait des mutations. Et ça, ce sont des régions où vous avez énormément de réinsertion, c'est-à-dire qu'un petit morceau de gène qui est transcrit, qui sort, qui est retranscrit en ADN et qui va se réinsérer ailleurs, ce sont des éléments qu'on appelle des éléments transposables. Eh bien, ce sont des régions où il y a énormément de transposition. C'est-à-dire que vous prenez deux jumeaux identiques, hein, à travers ce processus, eh bien, vous avez à la fin deux individus différents. Non seulement au niveau épigénétique, hein, je vous ai raconté le coup du bord qui change, mais aussi au niveau génétique, et en particulier dans ces régions qui sont les régions les plus importantes, parce que ce sont des régions qui sont impliquées dans la modification du cortex à long terme. Donc, 5 minutes, l'amélioration de l'espèce humaine. Il y a des gens qui avaient pensé faire ça par la reproduction. Hein. On le fait bien pour les vaches. Ça, c'est aux États-Unis. Il y avait des centres où les gens qui étaient bien costauds et tout, et intelligents, ben, on les mettait ensemble et on les faisait se reproduire. Ils avaient même des médailles. Yes, I have a goodly heritage. Hein. Donc ça, c'est la médaille pour les gagnants de la famille la mieux adaptée. Courtoisie de la philosophie, de la société philosophique américaine. C'est pas si vieux, hein, évidemment, c'est après Darwin. Oui, l'eugénisme, c'est ça. C'est une vision un peu naïve du monde, parce que ce que je vous ai montré, c'est que le cerveau est une machine essentiellement génétique, mais aussi épigénétique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de construction du cerveau qui ne dépend pas d'un destin génétique. Évidemment, nous sommes génétiquement sapiens, mais la construction du cerveau, elle est historique, elle dépend de notre histoire d'individu. C'est pour ça que si je fais la manip sur Alain, eh ben, il ne sera pas le même 30 ans plus tard si je fais l'aller-retour. Je le ferai. Et puis, évidemment, je vous ai dit, nous sommes des animaux techniques. Nous avons un destin technique. Que ça plaise ou pas aux gens qui n'aiment pas la technique et aux gens qui n'aiment pas la science, nous avons un destin technique. Sans la technique, nous n'aurions jamais passé du stade de 10 000 dans notre savane natale à aujourd'hui 7 milliards sur cette Terre. Donc, l'adaptation future... Ben, elle passera probablement par... Nous sommes déjà des cyborgs. Si aujourd'hui je vous supprime les ordinateurs, vous allez être malheureux comme tout. Là, il y a une fille dans le monde hier qui disait qu'on l'avait supprimé Internet pendant 8 jours, elle a failli se suicider. Mais même moi, ça me fait ça. Hein. Quand je pars en voyage et que je suis à un endroit où je n'ai pas accès au web, je me sens mal. Hein. Et je pense que vous avez tous cette expérience ici maintenant. Donc, et les plus jeunes d'entre nous, encore plus, bien entendu. Donc nous sommes déjà des cyborgs, c'est-à-dire des animaux-machines. Le cerveau, l'ordinateur a prolongé mon cerveau comme la bicyclette avait prolongé mes jambes. Hein. Eh bien, il n'y a pas de marche arrière non plus là-dessus. Hein. Et l'évolution future de Sapiens, ça sera quand même dans l'augmentation de cette fonction cyborg, c'est-à-dire évidemment homme-machine. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'on pourra augmenter les performances du cerveau, et d'ailleurs, on peut déjà le faire. Hein. Si vous avez quelqu'un qui a une maladie de Parkinson, il y a un traitement de la maladie de Parkinson maintenant qui consiste à implanter des électrodes dans le noyau sous-thalamique, donc avoir une machine en connexion avec son système nerveux, et beaucoup de développement pour des thérapeutiques, bien entendu. Hein. Par exemple, vous êtes locked-in, hein, vous ne pouvez pas bouger. Eh bien, si vous pouvez commander une machine par la seule force de la pensée, c'est pas mal. Alors, il y a une manip qui a été faite chez les rats, comme ça. Vous savez, les rats aiment beaucoup le jus d'orange. Vous savez peut-être pas, mais oui. Donc, vous apprenez un rat... que quand il appuie sur la pédale comme ça, il y a une trappe qui s'ouvre et il y a un petit filet de jus d'orange qui arrive. Donc ça c'est bon, c'est sympa quoi. C'est comme le monsieur et le chocolat là, oui, je sais pas. Donc, mais pendant ce temps-là, vous pouvez enregistrer ce qui se passe dans son cerveau. Vous pouvez mettre 100 électrodes dans le cerveau et puis mesurer, regarder l'activité neuronale. Alors c'est compliqué parce qu'il faut des très bons mathématiciens parce que quand vous avez 100 neurones qui tapent en même temps, en temps réel, il faut faire ce qu'on appelle extraire le signal, c'est-à-dire extraire un sens de cette activité collective neuronale. Mais si vous le faites, vous pouvez envoyer ça vers un ordinateur. Et l'ordinateur est capable de dire « ce rat a envie de jus d'orange » parce qu'il mesure « j'ai envie de jus d'orange ». Et l'ordinateur alors peut ouvrir la trappe à jus d'orange. Et d'un coup, vous voyez que le rat arrête de taper sur la pédale et ouvre la trappe à jus d'orange simplement par la seule force de la pensée. Il a envie de jus d'orange et l'ordinateur ouvre la trappe pour lui. Donc il n'appuie plus sur la pédale du tout. Donc en fait, il n'a plus besoin de membre. L'ordinateur remplace le membre. Ce qu'on appelle des interfaces cerveau-machine. Donc ce sont des technologies qui sont aujourd'hui extraordinairement développées, également pour des problèmes de pathologie, parce que vous êtes paralysé, vous pouvez ouvrir le sonne, vous pouvez ouvrir la porte. Enfin, l'ordinateur le fait pour vous. Vous pouvez écrire sur un ordinateur, Hein, aujourd'hui, on le fait avec des EEG, mais ça prend 30 secondes par lettre. Et supposez que la machine est directement implantée dans votre cortex, vous pouvez écrire en temps réel sur un ordinateur. Donc communiquer sans avoir besoin de taper sur la machine. Hein, les bras ne servent plus à rien, d'une certaine façon. Et puis, évidemment, on y pense toujours pour les pathologies, mais c'est comme pour les drogues chimiques. Au départ, on les invente pour soigner les pathologies, et après, on les prend pour se faire plaisir. Donc, rien n'interdit de penser que l'évolution future de Sapiens passera par des interfaces de ce type, c'est-à-dire où des systèmes de multi-électrodes seront mis en contact avec les cerveaux. Donc, en fait, pour rien vous cacher, c'est en route chez le singe. Et de faire des prothèses comme ça qui permettront aux gens, évidemment, qui ont perdu un membre, par exemple, de commander un bras mécanique avec un retour sensoriel et de faire des prothèses qui seront des prothèses qui sont des prothèses quasiment vivantes. Hein, donc, je vous laisse sur cette image futuriste, mais peut-être pas si futuriste que ça, finalement, de quoi on peut l'espérer, de quoi moi je l'espère. Il y aura assez longtemps pour voir quand même se développer ces artefacts. Voilà, je vous remercie.
C'était Alain Prochiantz, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France. Il s'exprimait au cours de la leçon inaugurale du 29 août 2009 aux premières années de l'École nationale des ponts et chaussées sur la machine esprit. Restez à l'écoute de ces retransmissions, nous vous proposons d'écouter également les communications d'Alain Marvani, président du département première année des ponts et chaussées, sur la science et la morale, et puis Yves Jeanneret, directeur de recherche dans le programme de doctorat international Muséologie, Médiation et Patrimoine, qui s'exprime sur les communications des savoirs, savoir de la communication, l'imperceptible richesse de la trivialité. Enfin, ne manquez pas l'émission en compagnie de Jean Salençon, président de l'Académie des sciences, qui développe les thématiques de sa conférence consacrée pour sa part aux enjeux énergétiques réalistes pour les prochaines décennies. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions sur Canal Académie.